Amis de Radio Occitanie de la Poésie, bonsoir, les poètes. Une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Une émission ce soir un peu particulière, puisque vous allez entendre l'enregistrement d'une table ronde qui s'est déroulée samedi dernier, place Saint-Pierre, à Toulouse, dans le cadre du salon du livre des gourmets sous l'égide de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse. Il s'agissait d'une table ronde sous le thème « Où se niche la poésie ?». Alors vous allez l'entendre, les intervenants à cette table ronde, c'est votre serviteur, puisque j'avais l'honneur de présider cette table ronde, et ensuite les interlocuteurs qui interviennent au fur et à mesure de ce que vous allez entendre sont Simone Allier d'Aram, une poétesse pour laquelle nous avons consacré des émissions ici à Radio Occitanie, et puis Francis Ricard, poète également connu de nos éditeurs, de nos auditeurs, Franck Bardou, poète occitan, membre également de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, il est maître S-Jeux. Le secrétaire perpétuel ensuite de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, Philippe Dazébrun, et enfin le professeur Jacques Arlet, qui est également lui membre mainteneur de l'Académie des Jeux Floraux. Voilà, c'est dans leur ordre de passage que vous entendrez donc tout à l'heure. Mais dans les quelques minutes qui me sont réservé donc pour que je puisse présenter quelques ouvrages avant de vous faire entendre ce colloque éminemment intéressant sur ce sujet où se niche la poésie. Bien entendu, vous le savez bien, la poésie, elle se niche partout. Je voudrais vous signaler quelques publications. Alors, j'en ai reçu beaucoup et donc celle dont je vais parler maintenant, je vais le faire très vite. Mais je reviendrai dessus et bien entendu je parlerai des publications que nous avons reçues et pour lesquelles je n'ai pas encore le temps de vous en parler. Alors la première, nous allons commencer, puisque nous parlions de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, nous allons commencer justement par un mainteneur encore de cette académie prestigieuse, l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, avec Jean-Pierre Lassalle. Alors Jean-Pierre Lassalle, que nous avions invité plusieurs fois, mais notamment lors de la parution d'un livre, Rosalie, c'est une nouvelle de Ange Pesmeja, qui avait été édité par les Amis du Pays de Saint-Céré en 2011. C'est une nouvelle. Le livre vaut 14 euros. Alors de quoi s'agissait-il? Sous le titre Rosalie, Ange Pesmeja, qui est un agitateur d'idées, un homme politique et un homme de lettres né à Saint-Céré en 1819, avait écrit un roman autobiographique. Bon, c'est donc ce roman, Rosalie. C'était un journaliste, Ange Pesmeja, qui avait adopté les idées socialistes issues de la Révolution de 1848 et qui devient tout naturellement un opposant farouche à Louis-Napoléon Bonaparte et contraint à l'exil par ce dernier. Il va quitter Paris et son métier de journaliste pour réfugier dans sa famille ou à Saint-Céré, bien sûr. Alors, il y a les éditions classiques Garnier qui viennent de publier cette année « Le chemin des correspondances et le champ poétique » à la mémoire de Michael Pankenham. C'est sous la direction de Steve Murphy et notre ami académicien Jean-Pierre Lassalle publie un long article sur ce Ange Pesmeja, linguiste et poète, donc à l'intérieur de cette brillante publication. Alors je vous invite bien sûr à vous procurer dans la mesure du possible ce livre et vous reporter à cet article de Jean-Pierre Lassalle sur ce livre fort intéressant d'Ange Pesmeja, où il dit, il faut attendre 2001 pour voir Pesmeja entrer dans une anthologie des poètes du Quercy, publiée par Gilles Lade, notre ami poète Gilles Lade, dont je vais parler d'ailleurs tout à l'heure, aux éditions du Laquais, à Martel-Lotte. et 2011 pour voir son roman, donc celui dont je vous parlais, Rosalie, en grande partie autobiographique, Rosalie, publié en 1860, réédité par les soins de l'Association des Amis du Pays de Saint-Céré, avec une préface, bien entendu, de Jean-Pierre Lassalle. Ange Pesméja est fils de notables saint-céréens, d'une longue lignée de géomètres, de procureurs, de notaires, à l'esprit bourgeois fermé aux idées nouvelles et à la religiosité un peu pesante. Ange Pesméja se révoltera et prendra ses distances avec une famille qu'il juge étouffante. Voilà. Je vous invite donc à lire, d'une part, bien sûr, Rosalie, de Ange Pesméja, Rosalie, nouvelle, réédition des Amis du Pays de Saint-Céré, 2011. Le volume vaut 15 euros. Et puis, Le chemin des correspondances et le chant poétique, à la mémoire de Michael Pankenham, aux éditions Classique Garnier. Voilà pour Ange Pesméja, dont nous aurons certainement l'occasion de reparler dans quelques temps. Et puis, des revues. Alors, la revue Nouveau Delhi, revue de Poésie Vive, elle fait paraître son numéro 55, Cathy Garcia. Alors, Cathy Garcia, elle met en ligne des comptes rendus de lecture, mais également des lectures de poèmes qu'elle publie dans Nouveau Delhi, et nous mettrons sur notre site, puisque elle nous y a autorisé, nous mettrons sur notre site les-poètes.fr, nous mettrons bien entendu ce beau travail donc qu'elle a réalisé. Alors le numéro 55 est paru, il y a dans ce numéro de la poésie avec Luminiza, Lionel Mazari, Stéphane Cazenob, Sandra Lillo, Laurent Bouisset. Et puis, il y a des commentaires sur les livres de poésie, ce qui est très bien, ce que Cathy Garcia appelle résonance. Seul le bleu reste de Samaël Stenner. C'est aux éditions Citron Gare de cette année. Le ciel déposé là, de Jean-Baptiste Pedini, dont on a beaucoup parlé, en particulier dans la revue Décharges, et qui a paru ce livre, Le ciel déposé là, de Jean-Baptiste Pedini, aux éditions L'Arrière-Pays. Et puis, Ça va aller, tu vas voir, de Christos Ikonomou, c'est un grec, aux éditions Kidam. Voilà, les illustrations sont de Douana Viru, et c'est toujours une publication extraordinairement soignée, et toujours très intéressante, très originale, vraiment un militantisme de la poésie qu'il faut toujours véritablement saluer et encourager. Nous reviendrons sur ce numéro Nouveau Delhi, revue de Poésie Vive, numéro 55, et nous mettrons bien sûr sur notre site le beau travail de Cathy Garcia que je vous invite bien sûr à aller écouter. Et puis la revue Diérès. Excusez-moi d'aller vite, mais je voudrais pouvoir vous faire écouter ce colloque. La revue Diérès, alors, publie son numéro 68. C'est un livre, un gros livre, magnifique. Le livre vaut 15 euros. Il est très bien construit. Vraiment, c'est fait au cordeau. Bon, comme d'habitude, on est maintenant totalement familier de cette excellence des publications de cette revue Diérès. Alors, on y reviendra, bien sûr, je ne peux pas, en quelques secondes, vous parler de tout ce qu'il y a sur ces plus de 300 pages. Sachez qu'il y a bien sûr un éditorial de Daniel Martinez qui est très intéressant et que j'aurai l'occasion de vous lire lors d'une prochaine émission. Et puis, il y a un domaine international où il y a des auteurs brésiliens et des auteurs américains, en particulier donc Edgar Powers, qui est cher à notre ami Daniel Martinez. Et puis alors, tous les poètes comme Pierre Desnoz, on va retrouver Jean Chattard, Jean-Pierre Poels, Raymond Farina, nous avons trouvé bien sûr Isabelle Lévesque, Gilles Lade, Gilles Lade, et nous allons d'ailleurs, avec des lettres Jean Malrieux, à Jean-François Maté, ce sont des facsimilés, vraiment très, très, très intéressants. Une revue absolument à lire. Alors, je vais lire rapidement un poème de Gilles Lade. Gilles Lade, déprise. Une mort est à l'œuvre dans ton regard, qui se retire des visages, s'enfin ramener par la rue, comme des migrateurs du lointain de la mer. Et mort aussi quand l'arche de roche cesse de faire gloire à tes journées. Ta mémoire dilapide la voix qui clamait sa certitude unique. Lentement se referme le quart de ciel de l'horizon sur un soleil menaçant de silence et d'affût. Un arbre est grand comme la beauté. La ville bouge lentement, féminine. Le soleil tend les façades jusqu'aux veines. L'ombre cache un homme, demeuré sans regard. Plusieurs vies rejoignent le marcheur. Aucune n'est assez forte pour mettre au cap définitif le monde refait à neuf, ses couleurs et ses formes. Une vieille maison revient comme l'amoureuse furtive devenue femme d'une vie. Gilles Lade. Écoute, vois, la forêt sans feuilles, que même le vent n'approche pas. Crains les hautes branches, gardiennes du manuscrit des vies, ne pose pas de questions trop vives à l'entrelac qui médite la nuit. Passe au large des frontons livides, où des personnages aux yeux clos refont leurs gestes d'infini. Ne sors que lentement des arbres et des pistes, traverse mélodieux la mémoire de tant de disparus. Lis dans un ciel ni d'aube, ni de soir, la liberté de vie échappée à la prison de pierre. Gilles Lade. Alors dans ce numéro également de Dirèze, il y a ce qu'on appelle les bonnes feuilles, donc d'excellentes critiques donc de livres, de notes de lecture, de livres de poésie, et en particulier Le visage secret d'Alain Suyed qui a paru aux éditions Arfuyen en 2015. Je vous invite vraiment à lire, j'étais très heureux de voir qu'il y avait une note de lecture de Pierre Perrin sur ce livre que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, alors, très vite, vous allez pouvoir vous procurer la revue Dirèze chez Daniel Martinez. Pardon, quand je cherche quelque chose... Daniel Martinez, 8 avenue Hoche, 77 330, Ozoir-la-Ferrière. Vous trouverez tous ces renseignements, bien sûr, sur le compte-rendu de l'émission et sur notre site les-poètes.fr. Et puis Dirèze a également un site que je vous invite à voir en tapant simplement sur votre moteur de recherche Dirèze. L'abonnement vaut 45 euros à payer à Daniel Martinez. Et puis les nouveaux délits, l'abonnement de nouveaux délits est adressé à l'association Nouveau Délit, Létou, L-E-T-O-U, 46 60 30 Saint-Cyr-la-Popie. L'abonnement vaut 28 euros et les chèques doivent être donc à l'ordre de l'association Nouveau Délit. Voilà, tout ceci figurera sur notre site les-poètes.fr. Maintenant, place donc à ce colloque sur Où se niche la poésie, qui a eu lieu à Toulouse, place Saint-Pierre, samedi dernier.
Alors, mesdames et messieurs, tout d'abord, je dois vous avertir que la table ronde à laquelle vous participez est enregistrée et sera diffusée un jeudi de 20h à 21h sur les ondes de Radio Occitanie dans une émission qui s'appelle « Les poètes ». Alors, où se niche la poésie ? C'est le thème de cette table ronde. Simone Allier-Daran, ici présente, a eu bien raison de choisir ce thème de réflexion sur la poésie. Où se niche la poésie ? Répondre à la question va nous permettre de tordre le cou sans appel à bien des préjugés qui engluent l'idée de poésie dans une gangue de guimauve et corinthe. Il nous appartient donc de faire sortir la poésie de cette nasse d'ornements de pacotille dans laquelle le lieu commun l'emprisonne. Les médias, aujourd'hui, sont les premiers gardiens involontaires, c'est-à-dire inconscients, de cette prison. Alors que la quasi-totalité d'entre eux ne rendent aucun compte de la production actuelle de la poésie, ils ne cessent d'illustrer leurs propos en se référant à la poésie et à l'adjectif poétique. La poésie, dès lors, devient un paysage, un objet, un geste, un personnage. Et tout naturellement, ce que nos médias qualifient de poétique devient le lieu même de la poésie. La poésie nicherait donc dans ce qui est nommé poésie ou poétique. Déjà en 1950, cette hérésie de jugement, mortifère pour la poésie, nous le voyons bien aujourd'hui, était si partagée que Pierre Réverdy, dans son essai « La fonction poétique », avait dû affirmer « La poésie n'est pas dans les choses, à la manière où la couleur et l'odeur sont dans la rose et en émanent, elle est dans l'homme uniquement, et c'est lui qui en charge les choses en s'en servant pour s'exprimer. Elle est un besoin et une faculté, une nécessité de la condition de l'homme, l'une des plus déterminantes de son destin. Elle est une propriété de sentir et un mode de penser. » Pierre Réverdy développe de façon très explicite que devraient lire ou relire nos inévitables journalistes, chroniqueurs obsessionnels de notre quotidien, dans son essai « Cette émotion appelée poésie ». Écoutons-le, je le cite. « La poésie n'est pas plus dans les mots que dans le coucher du soleil ou l'épanouissement splendide de l'aurore, pas plus dans la tristesse que dans la joie, elle est dans ce que deviennent les mots atteignant l'âme humaine. Quand ils sont transformés, le coucher du soleil ou l'aurore, la tristesse ou la joie. Elle est dans cette transmutation opérée sur les choses par la vertu des mots et les réactions qu'ils ont les uns sur les autres dans leurs arrangements, se répercutant dans l'esprit et sur la sensibilité. La poésie niche donc dans le travail de la langue. C'est la conclusion de Pierre Réverdy. Ce passage de l'émotion brute, confusément sensible ou morale, au plan esthétique ou sans rien perdre de sa valeur humaine, s'élevant à l'échelle, elle s'allège de son poids de terre et de chair, s'épure et se libère de telle sorte qu'elle devient de souffrance pesante du cœur, jouissance ineffable d'esprit, c'est ça la poésie. La poésie niche dans une jouissance ineffable d'esprit. En 1970, lors de l'épreuve orale d'un concours d'accès à une fonction publique, j'étais confronté à cette question abyssinale du président du jury, qu'est-ce que la poésie ? C'est pas banal, on m'a posé cette question en épreuve générale. Alors je citais d'emblée Paul Valéry, non sans une certaine ruse, car j'étais sûr au moins que cet auteur classique était connu du jury, ce qui était moins sûr des poètes contemporains que je pratiquais. Paul Valéry avait écrit dans Tel quel en 1910, il y a plus d'un siècle. Hein. La plupart des hommes ont de la poésie une idée si vague que se vague même de leur idée est pour eux la définition de la poésie. Terrible lucidité de Paul Valéry. Plus d'un siècle plus tard, cette déploration est toujours d'actualité. D'ailleurs, 26 ans plus tard, le constat pessimiste de Paul Valéry s'était aggravé. Il est exact, insistait-il, que depuis 300 ans environ, les Français ont été instruits à méconnaître la vraie nature de la poésie et à prendre le change sur des voies qui conduisent tout à l'opposé de son gîte. La poésie ne niche pas là où beaucoup de gens la croient. Mais l'homme possède ce don merveilleux qui est celui de l'imagination, couplé à celui de la parole, et Réverdy est convaincu que le sens poétique est inné chez l'homme et a même certainement été la source de toutes les religions. C'est dire combien la poésie est présente dans l'esprit de l'homme. Nous savons que les mots sont un assemblage, une transposition, un symbole, car le mot maison, par exemple, ne montre pas une maison quand nous prononçons ce mot. C'est comme cela qu'est née la poésie, car en même temps que le mot désigne une maison, il dit plus que la maison en elle-même. C'est en ce sens que Rabindranath Tagore peut dire que, je le cite, « La poésie et les arts entretiennent la foi profonde de l'homme dans l'union de son être avec tout ce qui existe et dont la vérité finale est la vérité de sa personnalité. » La poésie niche dans la vérité de notre personnalité. Par le levier du langage, la poésie naît de la rencontre de l'imagination et de la réalité. C'est dans la complexité de ce rapport de l'imaginaire à la réalité que niche la poésie. Depuis que le vers libre a supplanté la rime et la métrique, le poème fonctionne, si l'on peut dire, avec des images. Et l'image est une représentation indirecte de l'esprit d'une chose. Octavio Paz, en 1956, dans L'Arc et la Lyre, faisait remarquer que le langage parlé était poétique, mais qui n'était pas le poème. Le poème, précise-t-il, est langage érigé. Érigé le langage. Paul Éluard y excelle par son image mythique. La terre est bleue comme une orange. Cette juxtaposition de mots change notre rapport au monde. Mais nous savions déjà obscurément que la terre était bleue comme une orange. Dès la lecture du vers, l'incongruité première disparaît. La poésie niche dans la révélation d'une chose que nous portions obscurément en nous. Il revient au poète de traquer la langue dans tous les sens. Il la renouvelle, la nettoie de toutes ses scories, de toutes les convenances de formatage de la langue unique de nos médias qui, de cette uniformité, ne peuvent qu'induire une pensée unique, c'est-à-dire en réalité aucune pensée. Longtemps, des mots ont été employés plus facilement que d'autres et ont servi à tout propos de trame, de fil conducteur de la poésie. Ces mots, termes de l'intime de l'être, tels que cœur, âme, se sont considérablement usés et sont devenus aujourd'hui suspects. Mais, pour citer encore Reverdy, il n'y a pas de mots plus poétiques que d'autres. Chaque poète use de son propre vocabulaire, de la résonance qui s'établit entre leur intime perception des choses et l'alliance plus ou moins tacite des mots. Jean-Pierre Lassalle, par exemple, notre poète surréaliste, ouvre plus d'espace à ses poèmes avec les mots savants qui lui sont familiers. D'autres poètes demeurent au plus près des mots quotidiens ou introduisent, comme J'aime sacré, des distorsions du parler populaire. En cette matière, il n'y a pas de vérité. Entre l'esprit et le poème, aucun intermédiaire. Le langage appartient à l'être, et la complexité de l'être constitue la complexité de la poésie. On peut donc en déduire que la poésie niche dans l'image de l'homme. Mais la poésie n'est pas un acte gratuit. Exprimer ses obsessions sous forme de poèmes, qui sont des objets d'émotions intelligentes, répond à une nécessité. C'est la nécessité qui donne sa légitimité au poème. Le poème d'ornement ou poème de circonstance n'est pas poésie. Le poète écrit parce qu'il a à dire des choses essentielles, affirme, avec beaucoup d'autres, Marie-Claire Bancard, Rilke, disait qu'il fallait être contraint d'écrire. La poésie niche dans la nécessité. La nécessité d'écrire de la poésie a toujours son origine dans la finitude de la condition humaine. Il faut vivre avec notre inquiétude, en sachant que nous allons mourir. La poésie est une réponse à la détresse de la destinée humaine. Elle signe la révolte face à notre finitude. L'acte même d'écrire est une forme de liberté. Même au creux du fond du noir, écrire ou lire un poème est encore un geste de vivant, affirme Antoine Aymas. Ce geste est un geste de résistance. La poésie niche dans la résistance. La résistance de la poésie est, nous explique Jean-Luc Nancy, est en somme la résistance du langage à sa propre infinité. La résistance à la démesure que le langage est par lui-même. La résistance poétique peut tout aussi bien aller au silence, qui n'est exact que par défaut, précise Jean-Luc Nancy, que se prendre elle-même au bavardage et à la démesure. Dans notre époque, livrée au bavardage jusqu'à l'écœurement, la résistance poétique est plus sensible, mais aussi plus difficile. Mais, constate J'aime Sacré, avec son expérience de la vie et tout son travail de poète, la poésie ne peut sans doute pas grand-chose contre ce qui inquiète ou effraie notre esprit. Il nous met en garde. Ce n'est pas en se saisissant de cette inquiétude, en la prenant comme motif d'inquiétude, que le poème va la faire disparaître, mais peut-être va-t-elle mieux en prendre conscience et parvenir quelque peu à la comprendre. J'aime Sacré avance une autre origine de l'acte d'écrire de la poésie. Un poème nous vient dans les doigts, souvent à cause d'un manque ou d'un désir qui creuse un manque entre ce que nous sommes et ce qui est désiré. La poésie niche dans le désir et dans le manque. Mais également, Germe Sacré éprouve du plaisir à écrire de la poésie. Claude Vigée m'avait certifié qu'écrire un poème ou faire l'amour relevait du même plaisir. Le plaisir d'écrire, précise J'aime Sacré, n'est pas forcément lié au sentiment que nous serions en accord avec le monde, mais au moins au bonheur d'être dans les mots, dans la langue, avec cette part du monde qu'elle est, elle, la langue. La poésie niche dans le manque, la poésie niche dans le plaisir. L'apitoiement, bien discret, il faut dire, que certains se plaisent à accorder à la poésie est-il justifié? Il existe une misère de la poésie, très spécifique de notre époque. L'effacement historique qu'elle connaît peut laisser croire à un naufrage. Ce naufrage apparent agit comme un puissant stimulant chez les poètes qui nourrit leurs interrogations et leurs images. Ils y assoient alors leur force de résistance et leur grandeur. Cette pauvreté forcée induit des formes poétiques adaptées à ce peu qu'on accorde à la poésie. Ce que je veux dire, c'est pas grand-chose à vous, J'aime Sacré, dans l'émission Les Poètes de Radio Occitanie. Mais dans ce pas grand-chose se niche une concentration intensive de sens. Le paradoxe de notre époque, c'est la multiplication de très bonnes publications de livres de poèmes. La poésie n'est pas exsangue, Elle est simplement oubliée des médias et c'est ce qui la sauve. Cette pauvreté de notoriété la fortifie. Elle exige un effort du public. N'y viennent que les plus disponibles à la poésie. C'est Federico Garcia Lorca qui a raison. Ce n'est pas de partisans que la poésie a besoin, mais d'amants. Elle se couvre de ronces épineuses et d'éclats de verre afin que celui-ci qui étend sur elle sa main s'ensanglante. Merci.
Simone.
Moi ?
Oui.
Après le long discours de Christian, fort intéressant, je voulais préciser une chose quand même, une question de dénomination. La poésie n'est pas dans une niche, contrairement à ce qu'on dit en matière de communication. Justement, elle est tellement partout qu'il ne faut pas la mettre dans une niche. Voilà, dans le sujet que j'avais choisi, il ne s'agit pas d'une niche fermée, mais au contraire d'une niche, d'une immensité. Où il faut trouver dans chaque endroit des moments poétiques. Alors, moi, je ne suis pas aussi savant que vous l'êtes tous. Non, monsieur Harley. La poésie, c'est une émotion, je pense, d'abord. La poésie, ça peut être dans les orteils d'un nouveau-né qui reçoit un rayon de soleil. La poésie, c'est une lumière, c'est quelque chose que l'on ressent. Et il y a deux intervenants dans la poésie, celui qui l'écrit, qui ressent, et celui qui lit. Parce que la poésie, ça se réinvente par la lecture. Et en fait, l'émotion qu'on met à écrire quand on écrit de la poésie, elle est ressentie quelquefois complètement différemment par le lecteur. Et ça, c'est curieux. Je ne sais pas si vous avez cette impression, je ne vais pas être la seule à parler. Qu'est-ce que tu en penses, Francis ?
Non, je t'écoute, moi.
Et non, mais je te parle.
Je t'écoute. Le lecteur, bien sûr, oui, le lecteur est très important. Il réinvente, mais ce n'est pas forcément ce qu'on a écrit, mais bon.
Oui.
On est souvent aimé pour de mauvaises raisons.
D'autres raisons.
Quand les gens nous parlent de ce qu'on a écrit, parfois on ne reconnaît pas ce qu'on a écrit, mais bon, c'est pas grave.
C'est pour ça que j'ai dit que quelquefois
si ça leur a procuré, voilà, ouais. Si ça leur a procuré à eux une vision, une image, une sensation, une émotion, etc., ben tant mieux, c'est pas grave. Valérie, je raconte dans ses carnets, il raconte qu'un jour à Paris, il passe à la Sorbonne, il va comme ça écouter un cours, et il se trouve que c'est un cours sur Valérie. Sur Valérie. Alors, et c'était un poème à lui que le professeur essayait d'expliquer. Il dit, et Valérie, non, dans ses carnets, il dit, je ne savais pas que j'avais dit tout ça. Je ne savais pas que j'avais dit tout ça. Voilà, c'est tout, c'est pas grave.
Ah, c'est pas grave voilà. Du tout. Mais c'est pour ça que ça donne une multidimension.
Oui, bien sûr.
À cet exercice, si tant est qu'on peut appeler ça l'exercice. Quoique l'exercice de la langue, en matière de poésie, c'est quelque chose de travaillé, comme certains d'entre nous nous le disent sans arrêt, Claude Barrère par exemple. Et ça, c'est un niveau qui n'est pas celui de tout le monde, effectivement.
Continuez.
Ah bon, je peux continuer, effectivement, puisque... Moi, j'ai pensé aussi au mot... Au mot niche, ce mot m'a interrogé, ou ce niche, la poésie, j'ai pensé tout de suite à chien, hein, puisque niche est l'anagramme de chien. C'est bizarre que les anagrammes peuvent comme ça parfois nous fournir de la poésie. Il suffit de renverser le mot, singe et signe. Voilà, le singe m'a fait signe. Trace, et non seulement l'anagramme, mais en même temps le palindrome de écart. J'aime bien que le mot, toute trace qu'on peut laisser, nécessite un écart. Un écart dans la vision, un écart dans la chose vue, et je crois que c'est de là que naît la poésie. Le poète, c'est celui qui voit ce que la plupart des gens ne remarquent pas. Mais le poète le leur montre. Et là, les gens disent, ah ben oui, mais je n'avais pas vu. Donc il a un rôle aussi de guide. Michel Deguy a écrit un livre qui s'appelle Le sens de la visite, c'est le titre de ses derniers livres, Le sens de la visite. Pour avoir discuté avec Michel de Guy, je lui ai dit un jour, mais ce sens de la visite, en fait, c'est la visite du sens. Et il me dit, évidemment, vous avez tout compris, avec sa hauteur de professeur, grand professeur de Guy. Voilà, nous sommes là-dedans, nous sommes des espèces de, pas de guides, parce que l'époque du guide prophète de Victor Hugo est un peu passée. Personne aujourd'hui n'oserait dire « suivez-moi », il n'y a pas de Moïse aujourd'hui. Mais on peut être, pour nos lecteurs, quelqu'un qui montre quelque chose. Je n'avais pas prévu de parler aujourd'hui, donc je n'ai pas porté mes textes, mais j'avais ce petit livre avec moi. Je voulais vous lire un poème que j'ai écrit, parce que j'ai été un jour interloqué par, dans une maison vide, j'étais interloqué par un clou sur un mur, et vous avez déjà vu ça, je suppose. Il reste un clou et une trace sur le mur. Un trou et une trace sur la tapisserie ou sur la peinture. Donc, moi, j'ai vu ça. Je pense que les gens qui étaient avec moi, personne n'a remarqué un clou. Ça vaut pas un clou, comme on dit. Hein. Ça vaut pas un clou. On va pas faire de la poésie avec un clou.
Mais si.
Bien sûr. Parce que le trou, c'est l'absence. Enfin, le trou, pas le trou. Le clou, le trou, c'est l'absence. C'est-à-dire, c'est qu'il y eut là quelque chose. Il y eut là quelque chose qui moi, va m'intéresser. Je dis trou parce que je pense que la poésie, elle est aussi liée avec le trou. Le trou. Je pense au trou, à la trouvaille, par exemple. Trou, trouvaille. Il faut qu'on trouve des trucs. Il faut qu'on trouve des choses que les autres ne trouvent pas. Les surréalistes, par exemple, Debord et compagnie, les situationnistes aussi, adoraient les balades. Hein, les balades, partir comme ça dans Paris et trouver des trouvailles. Des objets, des choses que personne ne ramasse, des affiches déchirées de Rotella ou d'autres, etc. Donc c'est, je crois que la poésie, elle est là, et tout d'un coup, on nous le montre, et on nous dit, et on se dit, mais c'est bien sûr! Que n'y avais-je pensé que, effectivement, il faut regarder un clou sur un mur avec la trace qu'il a laissée. Il faut regarder un objet au marché aux puces. Les surréalistes étaient des fanatiques du marché. Enfin, fanatiques, j'en prends pas ce mot. Étaient des passionnés par les marchés aux puces. Moi aussi, j'adore ça. Aller fouiller. Et là, on trouve des choses, des objets insolites. On dit Kézako, en Toulousain. Kézako. Hein,
oui, mais après, là-dessus, ton imaginaire démarre.
L'imaginaire, oui, mais moi, où se niche ? Le mot niche au pied de la lettre. Je vais pas faire un cours sur la poésie en général. J'essaie de dire où ça démarre, où elle se niche. Voilà. Donc, je pense que la poésie, elle est justement. Je vais m'arrêter là, hein, mais je pourrais reprendre la parole peut-être. Mais je pense que la poésie, Mallarmé disait la plus belle fleur, c'est l'absente de tout bouquet. Comme il disait. Le plus bel arbre, c'est l'arbre entre deux arbres. C'est-à-dire, c'est l'absent. La plus belle chose, elle est absente. À nous de la trouver. Rimbaud, c'est écrit sur sa tombe. Je cherche l'or du temps. Mais on est tous des orpailleurs. On cherche l'or du temps, mais pour le partager, pour le donner, pour l'offrir. Pas parce que ça nous rapporte quelque chose. Simplement, on a ce décalage de la vision qui fait que peut-être on voit des choses que les autres ne voient pas.
Voilà. J'aime beaucoup la définition de décalage de la vision, effectivement. Parce que quelquefois, quand on regarde quelque chose, il se passe comme un chouissant, enfin, un passage dans une autre dimension qui nous permet de trouver à la fois des mots qui correspondent à ce qu'on vient de voir, mais qui sont effectivement un peu en décalage.
Je termine simplement pour rebondir sur ta phrase, c'était Claude Vigée, qui t'aurait dit... La poésie, c'est le même plaisir que faire l'amour. Alors là, non.
Non, hein, tu vois pareil.
Moi, rien de meilleur que faire l'amour. Évidemment, tant que j'ai pu. Hein, après, on se débrouille comme on peut. Mais la poésie ne m'a jamais donné cette jouissance-là. Faut pas rêver, quand même. Non, bon, un coup, baiser, voilà les choses qui font la vie. tout le reste, quand on écrit de la poésie, c'est parce qu'on a cette absence. Cette absence-là. On n'a pas encore lu de la poésie. Je vous lis un tout petit texte. Un tout petit texte où on retrouvera les traces, les dates. J'ai été frappé une fois par, suite à des crues, vous savez, la Garonne en crue comme ça, ça laisse des traces d'humidité. Et ça m'a interrogé, ce mot, ces traces comme ça. Et j'ai écrit ça comme ça, rapidement. Ces dates, vous savez, on met les dates, la crue à telle hauteur. Ces dates, ces traces, ces marques cochées qui restent de l'ampleur de l'étiage quand la crue se retire. Comment croire qu'elle ait pu jusque-là si haut s'élever ? Je demeure vide, tremblant de ce retrait. Il n'y a plus aujourd'hui que désert. Il y eut donc un jour une crue si immense ? Mais c'est la vie.
Ouais.
C'est du Ricard, pour ceux qui me connaissent.
Sinon rien.
C'est du Ricard. Voilà. Merci à vous.
La poésie est une femme. Les poèmes sont ses caresses, quand elle aime. Ses cris et ses gifles, quand elle souffre. Je les cueille en passant, et j'ai mal avec elle. La poésie n'est pas dans les mots. Elle n'est pas même dans la langue. Elle est dans les images que ces mots et ces langues accueillent plus ou moins bien, plus ou moins heureusement, et généralement, malgré moi. Elle est nécessité, il faut écrire, quand ça prend, c'est comme de tousser, c'est comme d'éternuer, c'est aussi comme de faire l'amour, on ne le réfrène pas, sinon on passe à côté de l'existence. Mais c'est une femme, elle est donc radicalement autre et en même temps délicieusement intime. J'ai, en essayant de répondre à la question « Mais où niche-t-elle » tenté de trouver son adresse. C'est toujours elle qui me trouve. Je ne sais pas où elle habite, mais elle sait où je suis. Et quand elle m'empoigne par le col, pas de discussion. C'est impératif. Cet impératif, je le ressens comme quelque chose d'étrange. Je ne dis pas qu'il y a d'un côté l'imaginaire qui serait poétique, et de l'autre la réalité, qui serait prosaïque. Je dis qu'il y a un jeu de miroir. Et quand je dis jeu, je ne suis pas certain d'y mettre un U, à la fin. Que ce miroir, tantôt, c'est l'intérieur qui se reflète, l'intérieur de l'âme, de l'imaginaire, de l'intimité de l'âme, qui se reflète sur l'extérieur, avec nécessairement une couleur émotionnelle. Je peux avoir des sentiments, des émotions, des indignations, des passions. En ce moment, plus souvent des colères que des atermoiements, mais ce sont les saisons qui passent. Et tantôt, c'est l'extérieur qui vient, bien malgré moi, se refléter dans l'intérieur. Alors, à la question... La poésie peut-elle être dans le paysage ? Un paysage, c'est un paysage. Mon appareil photo est autant poète que moi. Je le pose devant le paysage, j'appuie sur le bouton, et voilà un poème. Ce n'est pas si simple. Pas même pour le photographe qui connaît bien son art. Il y a dans cette interface entre l'extérieur et l'intérieur, un chiasme, un lieu d'optique, littéralement d'optique, qui explique, entre autres choses, cette subjectivité de la lecture poétique. Un sujet produit un objet poème, un autre sujet cueille ce poème et le reçoit avec sa subjectivité. Il y a de temps à autre, dans l'instant de création poétique, des impératifs de l'extérieur qui viennent imprégner mon intériorité. Lorsque c'est l'intérieur qui cherche à dire ce qu'il est, à l'aide de l'extérieur, je dis que, à ce qui me semble en tout cas, l'histoire, la mise en abîme de l'histoire événementielle qui accompagne la biographie du poète peut avoir une utilité pour interpréter le poème. et que ce qui lui arrive, ce qui lui advient, l'anecdotique de son existence d'homme ou de femme, a un rôle à jouer dans la création poétique, dans son émotion. Il dit ce qu'il ressent en le vivant, ou le manque qu'il a en ne pas le ressentir mieux, ou encore, ou enfin. Il y a là un espace, un trou, dans lequel le troubadour vient poser l'or du temps. En revanche, lorsque l'extérieur impose à mon intériorité son harmonie, quelquefois aussi sa disharmonie, tout dépend où je me trouve alors placé, quelque chose qui ne m'appartient en rien, ni pour rien, ni d'aucune manière, impose les mots, les dicte. Et humblement, comme un scribe égyptien figé dans sa sculpture, je prends note, sans savoir ce que j'écris. Je l'écris. On va dire, voilà un poème de un tel, peu importe de qui il est le poème. Chaque poème est unique, chaque poème est la caresse de cette femme. Pourquoi elle s'en prend-elle à moi? Je n'en sais rien, je la remercie, même si parfois c'est douloureux. Le poème, tel que je le vis, je l'oublie aussitôt qu'il est écrit. C'est comme un rêve. Un rêve, on le fait durant la nuit, on se réveille, on se souvient vaguement qu'on a rêvé. Quelquefois, on se souvient de quelques bribes, quelques couleurs, quelques émotions, un ou deux personnages plus ou moins connus, et tout le reste est déjà effacé. Chaque fois qu'un poème se pose sur ma page, c'est exactement pareil. Ce qui fait qu'à chaque fois que j'écris un poème, c'est le premier poème. C'est peut-être aussi le dernier.
Monsieur Philippe d'Azébrun.
Moi, je vais être beaucoup moins lyrique que mon prédécesseur et sans doute un peu iconoclaste. Parce que je pense que la poésie est finalement partout et en chacun.
Plus fort, Philippe, s'il vous plaît.
Comment voulez-vous que je parte plus fort? Vous m'entendez? Mais il faut dire que j'ai de la concurrence et peut-être un peu plus avinée. Donc, je dis, voilà, partout et en chacun. Ça veut dire que, à mon avis, la poésie n'est pas que dans les textes. Elle peut se nicher, pour reprendre l'expression qui a été choisie pour ce débat, je pense qu'elle peut se nicher ailleurs que dans le texte. Elle peut se nicher, d'abord, elle n'est pas que rimée, elle n'est pas que vers libre, elle est aussi prose. Mais elle peut se nicher aussi dans la peinture, elle peut se nicher dans le cinéma, elle peut se nicher aussi dans la publicité, partout elle se niche, en fin de compte. Pourquoi? Parce qu'à mon sens, la poésie, c'est un regard. C'est un regard. C'est le regard que vous portez, que nous portons sur la chose. Et de ce fait, la poésie est réveillée par la subjectivité. La subjectivité de chacun, ce qui est poétique pour l'un, peut ne pas l'être pour l'autre. Regardez lorsque Rimbaud a publié ses premiers ouvrages. Je ne parle pas de sa première poésie qui était tout à fait classique. L'autre, celle qui est venue après. Combien ont-ils été à reconnaître là un authentique poète? Très peu. Il a fallu quelques-uns, des génies notamment, qui n'étaient pas alors dans l'échevelé de Rimbaud, comme Claudel, pour dire « Ah, nous avons là un poète ». Bon, ça veut dire que la subjectivité est la part de chacun. Encore faut-il que cette subjectivité, me semble-t-il, soit un peu éduquée. Et là, il y a une responsabilité, la responsabilité du collectif, la responsabilité aussi de l'éducation nationale. Et parfois, l'éducation nationale fait curieusement son travail. J'ai là, pour l'occasion, n'est-ce pas, j'ai regardé dans les archives de mes enfants. Et je suis tombé sur un recueil de poésie d'un de mes fils qui était en grande section. Voilà la poésie qu'on lui a fait apprendre. Pim Panicaille, le roi des papillons, en se faisant la barbe, s'est coupé le menton. 1, 2, 3 de bois. 4, 5, 6 de buis, 7, 8, 9 de bœuf, 10, 11, 12 de bouse, va-t'en à Toulouse. Je ne suis pas sûr qu'on éduque à la poésie ainsi. Mais néanmoins, je suis persuadé que cet enfant-là s'est initié à sa façon à la poésie. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une convergence de regard, si subjectif soit-il, pour arriver à un critère. Et ce critère, finalement, fait émerger ce que la postérité nous donne. En effet, Rimbaud a surnagé, Mallarmé a surnagé, Victor Hugo a surnagé, mais combien d'autres n'ont-ils pas surnagé? Et je pense notamment à quelques poètes qui me sont chers, qui ont été des gloires lorsqu'ils étaient vivants et qui ont disparu complètement, comme notamment Pierre-Emmanuel. Pierre-Emmanuel a été un très grand poète, est toujours un très grand poète, mais pour ceux qui restent, me semble-t-il, attentifs à son œuvre encore aujourd'hui. Donc, vous le voyez, un regard plutôt optimiste. Je pense que la poésie se niche partout. Encore faut-il avoir le regard averti. Mais je crois que tous les regards d'enfants voient de la poésie partout.
Je voulais citer justement cette poétesse qui était avec nous, puisque nous l'avons jugée, et bien jugée, et qui a eu recours à la poésie à cause de sa maladie. Et je crois que c'est un aspect aussi des liens entre la maladie et la poésie. Et elle écrit « Si tout se défait autour de moi, une porte s'ouvre à l'intérieur. Elle se nomme poésie. » Et alors elle a écrit un livre autour de sa maladie et qui est assez beau. Et qui l'a aidé. Et puis si vous voulez, puisque nous sommes près de la fin, qu'est-ce que vous pensez de l'opinion de Max-Paul Fouché de tous les poèmes écrits depuis des siècles? Que reste-t-il, dit-il, des cris du cœur? Et là aussi, je trouve que c'est une bonne formule, et ça vous étonnera peut-être, mais Jacques Prévert a fait un grand poème, un long poème, qui s'appelle « Cris du cœur ». Là-dessus, je termine, parce que je pense qu'on a fait le tour à peu près de l'horloge, qu'il est temps de se...
Pas de la question.
Mais pas de la question.
Tour de l'horloge, mais pas de la question.
Voilà, merci.
Voilà, c'était le colloque donc sur Où se niche la poésie. La poétesse dont parlait le professeur Jacques Carlé, il s'agit de Brigitte Maillard, qui est l'auteur de très beaux livres de poésie dont nous avons parlé ici et dont nous reparlerons. Ainsi s'achève donc cette émission. Et puis si peut-être aussi quand même, pardon, le secrétaire perpétuel Philippe Dazébrun, qui évoquait la figure de Pierre-Emmanuel. Pierre-Emmanuel est toujours un poète très, très vivant et nous aurons le plaisir de consacrer une émission donc à Pierre-Emmanuel prochainement. Voilà, ainsi s'achève notre émission Les Poètes. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitanie. Et nous vous disons à la semaine prochaine. Adi Sast.